L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Les luthiers se transmettent les savoir-faire de génération en génération, soit, il n'empêche que leur savoir se formalise par des écrits, des traités, mais plus on remonte dans le temps, moins on trouve des sources aussi techniques. Si bien qu'à vouloir faire une flûte ou un psaltérion de l'époque médiévale, il ne reste plus pour modèle que des tableaux, des enluminures, des sculptures, où paraissent musiciens et musiciennes, mais les traces iconographiques ne s'adressant pas directement aux luthiers du XXIe siècle, elles ne cherchent donc pas à avoir une cohérence organisationnelle logique applicable pour qui veut aujourd'hui reconstruire les instruments de l'époque. Pour mieux saisir comment façonner un instrument de musique 6 ou 7 siècles après son âge d'or, Métaclassique a été invité par le Centre International de Musique Médiévale à sillonner dans les allées du Salon d'Archéolutherie à Saint-Guilhem-le-Désert, à la rencontre de Gisèle Clément qui a fondé le CIM il y a 10 ans, du psaltériste Baptiste Chopin, des archéolutiers Olivier Ferraud, Lionel Dieu ou encore Jean-Daniel Talma, en passant par la chercheuse Laura de Castellet. Gisèle Vienne, vous êtes la directrice du Centre International des Musiques Médiévales qui a 10 ans cette année, vous en êtes aussi la fondatrice. Est-ce que les questions d'archéolutherie au cours des 10 ans qui viennent de passer ont poussé, sont devenues une évidence et est-ce qu'il y a 10 ans elles étaient aussi centrales dans les questions que se posent les musicologues médiévaux ?
Alors bonjour David, effectivement la question de l'archéolutherie s'est posée avec un léger différé par rapport à la fondation du CIM. Puisqu'on a commencé les actions d'archéolutherie en 2017 et non pas en 2015. Donc les premières mises en œuvre ont concerné les musiciens, les ensembles et les universitaires. Voilà. Et c'est dans un second temps que j'y ai joint les luthiers, puisque ils font partie de ces personnes qui œuvrent à rendre vivantes ces musiques tout autant que les musiciens.
Les questions que les archéolutiers viennent poser aux, disons, archéomusicologues sont complètement neuves, c'est-à-dire que, enfin, ou du moins viennent reparamétrer des questionnements qu'il pouvait y avoir avant sans connexion directe à ce point avec l'organologie.
Complètement neuves, peut-être pas, mais en tout cas, elles vont plus loin. Les questions vont plus loin, oui, que ce qu'elles ont pu aller. La question du son, notamment. Hein. Il ne s'agit pas nécessairement de refaire, comment dirais-je, comme au Moyen-Âge, pour refaire comme au Moyen-Âge, mais en tout cas, de poser la question du son, de comment l'instrument sonne, dans son contexte, dans ses contextes. Donc oui, il y a une vraie démarche de la part des archéoluthiers.
Alors, leurs sources, c'est essentiellement des sources iconographiques, des sculptures, des textes. Ça veut dire que ce sont les musicologues qui vont faire les recoupements, puis les archéoluthiers qui vont voir ce qu'ils peuvent faire avec ça ou...
Alors, effectivement, dans la mesure où il y a extrêmement peu d'instruments issus, véritablement venus du Moyen-Âge, hein, il y en a 5 ou 6 qui ne sont pas en état de jeu de toute façon. Donc les sources, ce sont des sources indirectes, l'iconographie sous toutes ses formes, y compris la sculpture, beaucoup. Les textes littéraires qui décrivent, quelques textes théoriques, mais très peu. Voilà, donc les archéoluthiers, en fait l'archéoluterie c'est une discipline qui engage, enfin qui est véritablement pluridisciplinaire ou interdisciplinaire, et qui met en œuvre l'histoire de la sensibilité, l'histoire, l'acoustique évidemment, tout ce qui est de l'ordre physique, l'histoire de l'art, la musicologie, la littérature, enfin voilà.
C'est cette prise de conscience-là, ou du moins le fait que ça soit de plus en plus courant dans la façon de faire de la musicologie médiévale que de parler avec les luthiers, ça commence à se sentir dans la recherche des doctorants, doctorantes qui font des thèses en musicologie médiévale maintenant ?
Oui, en tout cas pour ceux qui s'inscrivent ici à l'université de Montpellier, Paul Valéry, oui. Moi, sur 7 doctorants, j'en ai 2 qui travaillent sur les questions de facture instrumentale. Clément Frouin qui a axé son travail sur la vielle à archer au XIIe et XIIIe siècle. Et Baptiste Chopin qui l'a centré, lui, sur ce qu'il appelle le canon, c'est-à-dire une forme particulière de psaltérion du début du XIVe siècle qu'on rencontre plutôt dans l'iconographie italienne.
Et lui, on va attendre. Et lui va en effet aussi guetter comment des questions de langage musical évoluent en même temps que le psaltérion avance dans sa confection.
Oui, c'est ça. On ne sait pas, comment dirais-je. Au Moyen-Âge, comme vous le savez, il n'y a aucune trace, ou quasiment aucune, de musique instrumentale. Quelques estampilles dans un manuscrit de la fin du XIIIe siècle, et c'est tout avant certains manuscrits, alors pour clavier du XVe siècle ou de la fin du XIVe. Donc, de la même manière, c'est en combinant les corpus, en combinant ce qu'on apprend de la facture, des possibilités de jeu, des représentations, la manière dont les musiciens sont représentés, tenant, jouant l'instrument, etc., qu'on peut mettre au jour, ou en tout cas supposer comment les pièces étaient jouées.
C'est pour ces 10 ans aussi la 7e session du Festival des Marteaux de Gélonne. Ça veut dire qu'il y a un public maintenant pour des musiques médiévales qui, ici, n'étaient peut-être pas si courantes avant que vous n'arriviez ?
Alors non, elles étaient tellement peu courantes que c'est pour ça que j'ai créé le CIM en général et le festival en particulier. Oui, il y a un public alors qui n'est pas énorme. Mais qui existe et qui est très... à chaque concert, je suis stupéfaite de la qualité de l'écoute que le public a.
Thank you. grand tube de la musique médiévale.
C'est vrai.
Stella Splendens.
C'est pas votre premier instrument, le psaltérion, Baptiste Chopin?
Le piano.
Le piano.
On ne peut pas faire autrement,
s'appelant Chopin. Et donc, on ne peut pas faire autrement que de dévier de son nom à un moment donné de sa vie, quand même.
On se sent certainement obligé de revenir aux racines du piano.
Donc c'est vraiment les racines du piano, en quelque sorte. Parce qu'il y a plusieurs ancêtres, on dirait qu'il y a des rivalités dans l'ancêtre du piano.
Oui, et il y a même des sursauts, des rebonds. On pense souvent à Cristofori, dans la première moitié du XVIIIe siècle, comme inventeur du piano, du mécanisme à marteau. Mais le mécanisme à marteau a existé, a été expérimenté dès la première moitié du XVe siècle. Et puis ça n'a pas pris, effectivement.
Bide commercial, et donc exit de la généalogie du piano.
Exactement.
Mais alors pourquoi celui qu'on vient d'entendre, que vous venez de jouer, vous dites que c'est l'ancêtre du piano, alors qu'il n'y a quand même pas de touche?
Parce qu'il faut bien une origine à toute chose, et qu'avant que le clavicimbalum, que l'instrument ait des touches, et bien c'était un instrument qui n'en avait pas, qui se jouait au plectre, avec la plume, qui se jouait au doigt. Et puis effectivement, il y a eu besoin à un moment, cette fin de XIVe siècle, notamment pour pouvoir jouer toutes les altérations chromatiques, puisque le répertoire en avait besoin, pour créer de nouveaux tubes, après Stella Splendens. Et cet instrument, au bout d'un moment, a montré ses limites. Et il y a eu quelques évolutions, dont l'adjonction d'un clavier qui, enfin, permettait de jouer toutes les altérations.
Donc vous, votre désir de jouer de cet instrument, il naît peut-être d'un désir déjà de sortir de votre répertoire interprétatif habituel, mais aussi d'une curiosité théorique pour l'évolution du langage harmonique qui lui-même est inscrit dans ces différents instruments.
Alors là, pour le coup, le langage harmonique, oui, il est complètement intégré à la conception de cet instrument, parce qu'il vient du monocorde, cet instrument qui permettait de déduire les bonnes proportions des cordes pour avoir les nouvelles notes, pour avoir toutes les notes de la gamme. C'est dans son dessin même que le monocorde s'inscrit dans cet instrument. Et mon intérêt, en fait, je dois dire, il vient quand même du fait qu'il n'y avait pas de piano au Moyen-Âge. Peut-être que s'il y avait eu un piano au Moyen-Âge...
Ah oui, c'est vraiment l'idée d'aller chercher les pianos de l'époque, en quelque sorte, enfin, même si c'était donc pas des pianos.
Un premier intérêt porté sur les premières formes d'instruments à clavier, c'est dont ça. On a eu quelques présentations ce matin avec Olivier, le clavicitérium, l'échaquier, le clavicorde, le clavicimbalum, j'en ai dit peut-être un ou deux. Et du coup, partant de là aussi, d'essayer cet instrument qui n'existe plus du tout dans cette forme si particulière, qui n'a pas eu de descendant à la suite du XVe siècle. Il s'est transformé dans le clavecin, dans le hackbrett, le dulcimer, l'instrument qu'on frappe plutôt. Mais celui-ci, il est complètement tombé en désuétude.
Alors, il n'existe plus du tout. Donc, vous, pour en jouer, il y a deux conditions. C'est que vous en fassiez faire un et que vous trouviez des méthodes pour le jouer selon les sources disponibles.
Alors, les sources disponibles sont, ma foi, fort maigres. Il n'y a aucun artefact, il n'y a rien dans les musées, il n'y a pas un bout de cheville, il n'y a pas un bout de corde, il n'y a rien. Donc pour reconstruire ce type d'instrument, comme pour la plupart des instruments de musique médiévaux de toute façon, on s'appuie pour une large part sur l'iconographie, les fresques, les peintures, les enluminures, les sculptures, qui nous renseignent sur les instruments en usage. On complète cette approche avec des sources iconographiques, des fois quelques rares sources dans les musées, dans les fouilles, et on arrive à se faire une idée, une proposition en tout cas. Donc c'est quand même beaucoup autour de l'iconographie, mais moi ce que j'aime beaucoup dans cette démarche là c'est que ça pose des questions sur l'instrument, mais ça pose aussi plein de questions sur le musicien lui-même.
C'est-à-dire?
Comment on jouait de cet instrument? Il n'y a aucun traité qui va vous expliquer ça.
Et donc vous devez l'inventer plus ou moins, ou vous vous inspirez un peu de quelques iconographies, mais en fait
c'est
ça n'a qu'à peine.
Ouais. C'est ça, on s'inspire de l'iconographie également, qui montre différents types de jeux, différentes positions, et on essaye d'enlever les couches de symboles, les couches d'allégories qui sont aussi derrière l'instrument, les spécificités aussi des techniques de représentation, qui n'y a pas de perspective par exemple à ce moment-là, donc il y a certaines conventions. Avec ça, on arrive à faire de nouveau des propositions. C'est génial d'expérimenter ça, quoi.
On peut parler peut-être avec Olivier. On peut discuter de comment vous avez travaillé avec Baptiste alors.
Sur quoi?
Sur cet instrument, le psaltérion.
Le psaltérion,
ouais.
Comment on a travaillé, ça s'est
c'est-à-dire,
passé
bah, c'est-à-dire qu'il vous donne des consignes, vous allez chercher des informations, enfin, comment on en arrive à réaliser un instrument aussi précis avec si peu de sources?
Mon souvenir, Baptiste était venu en désir de psaltérion. Moi, comme je fais souvent, je propose des modèles que j'ai envie de faire, que je propose. Et ensuite, on en discutait avec le musicien. Donc, Baptiste, il t'avait intéressé, notamment parce que pour la période de référence, enfin de la datation de l'iconographie, on était à une période un peu charnière, vers les années 1400, 1420, Saint-Bonnet-le-Château. C'est une fresque réalisée en 1420, qui nous montre un psaltérion qui correspond à une iconographie assez large, hein, du 14e au 15e siècle, c'est à peu près le même instrument, il n'a pas une particularité particulière. Quoi. Donc on s'est mis d'accord sur le modèle.
Ce que je voulais essayer, c'était ces fameuses cordes semi-chromatiques, voilà, qu'on a dans un plan.
Oui.
Il a le do dièse, le fa dièse, le si bémol, qui permet justement, précisément, de jouer un peu ce répertoire-là. Et ça, c'était quand même une expérimentation aussi, parce que ça veut dire qu'en gros, pour jouer fa-sol, bah, faut que je passe par-dessus une corde. Quoi. Sur le plan technique, c'est quelque chose.
Oui. Donc du coup, le plan de corde original, il y avait 15 cordes doubles sur la fraise, mais il a fallu le modifier un petit peu. Donc, on a gardé l'ambitus original, sol-sol.
Oui, c'est ça, sol-fa.
Sol-fa, voilà. Et donc il a fallu ajouter les fictas, les feintes, dedans. Du coup, retracer l'instrument aussi. Que ça change un petit peu la disposition des tons.
C'est-à-dire une fois que vous faites le plan de code, vous êtes obligé de redessiner la table.
Il faut que je redessine la caisse. Oui. C'est cet arc de cercle, hein, qui est importante. Il y a un compas là qui dessine les deux échancrures du psaltérion.
Ouais.
Et ça, c'est donné par la longueur des cordes.
Oui, donc elle est absolument pas ornementale, la forme de la caisse. Elle est complètement calculée,
elle
mathématiquement.
Physique, mathématique, musicale.
Ouais. Et ça, c'est des savoirs mathématiques qu'on avait à l'époque.
Tout le monde connaît son... Un lettré qui apprend la musique connaît son Pythagore par cœur.
C'est ça.
Ouais. Donc il est capable de prendre une corde, une section donnée, et de la diviser de manière harmonique selon la recette de Pythagore.
Donc tout laisse à penser que les luthiers de l'époque étaient plus savants de Pythagore que les musiciens eux-mêmes?
Non, pas plus savants. Mais les peintres aussi. Les peintres et les sculpteurs proposent des sculptures harmoniques. Le tracé est harmonique.
Oui.
C'est comme ça, c'est ce qui nous permet de choisir tel ou tel modèle iconographique. Soit on regarde le titre de son tracé directeur et on voit si les proportions sont harmoniques ou pas. En fait, c'est un savoir-faire qui est commun aux plasticiens, aux musiciens, aux théoriciens. On sait tracer de manière proportionnée et harmonique.
On racontait avec Baptiste que sa planche Chopin, il a commencé par le piano le 19e et puis il est remonté aux sources jusqu'à tomber sur un point d'accroche. Vous venez de l'archéologie sonore, vous intéressez au départ au paysage sonore du 21e siècle?
Oui, moi j'ai une thèse, je suis docteur en anthropologie sonore, oui, c'est ça, effectivement.
Et comment est-ce qu'on en arrive alors à construire un psaltérion pour Baptiste Chopin quand on s'intéresse d'abord au paysage sonore d'aujourd'hui?
Je faisais de la lutherie bien avant de faire ma thèse. Je fais de la lutherie depuis mes 17 ans, donc ça fait 30 ans que je fais de la lutherie maintenant. L'anthropologie m'a nourri, mon travail me nourrit à l'atelier, on va dire.
Et ça, vous pouvez dire comment? Parce que ça va pas, c'est pas intuitif d'office.
Ça apporte toute l'approche anthropologique. Hein, déjà, considérer qu'un instrument, c'est pas qu'un objet physique et technique. C'est pas qu'une technique de fabrication. C'est pas que de la musique non plus.
C'est aussi un objet culturel, sociétal.
Un objet culturel quasiment total, ouais, on va dire. Qui concentre en lui du social, du culturel, du sensoriel, du sacré, enfin du rituel, de tout. Quoi.
En l'occurrence, cet instrument, qu'est-ce qu'il emmène avec lui, à part quelques notes?
Le psaltérion, il est chargé. Hein.
Ah ouais, très chargé.
Il est très chargé. Ouais.
C'est-à-dire
c'est un, C'est un pied, c'est une marche directe vers l'Antiquité pour les médiévaux. On a un pied vers l'Antiquité avec Pythagore, avec Boès, avec la Bible, avec David.
C'est le terrain de David.
C'est-à-dire quand on joue ça à l'époque, on pense à David.
Oui.
Donc au roi Saul. Et à sa mélancolie et tout ça.
Et à sa mélancolie et à tout ce qui est rattaché au fait aussi que c'est... David, c'est quand même la préfiguration du Christ dans la Bible. Donc oui, il y a quand même ces enjeux qui ont été largement repris ensuite dans l'exégèse, dans les commentaires. C'est un instrument qui laisse place à beaucoup d'imaginaires ensuite pour évoquer des manières de se conduire, des manières d'envisager... Le futur, et c'est vrai que c'est pas toujours évident de saisir la matériolité, l'historicité de l'instrument derrière ces couches exégétiques qu'il faut effectivement chercher à dégager pour retrouver un petit peu le matériel qui se cache dessous.
Et le clatarion, c'est aussi l'application directe du monocorde. Donc toute l'harmonie céleste est contenue dans le clatarion et dans la musique harmonique qu'il produit. Quoi.
D'une part, et puis évidemment, avec un plectre dans chaque main, on peut aussi faire des pièces à deux voix qui, de fait, vont être moins véloces. Ouais, je crois que ça va aller. Passe la troisième technique de jeu que j'ai un petit peu inventée, à l'appui de l'iconographie, où cette fois-ci on joue à une main ici et puis on vient pincer les cordes avec. Voilà. Mais l'important maintenant c'était de le comparer avec le clavicimbalum.
Alors que nous apporte le clavicimbalum?
Beaucoup de la virtuosité à deux voix devient plus simple. Enfin, virtuosité, c'est pas les études de Chopin non plus, mais...
Enfin, pas forcément la virtuosité, mais là, tu as choisi une pièce de diminution,
quand même. Quoique.
Olivier.
Non, mais voilà. Moi, ce que j'entends dans l'intérêt du clavier ici, c'est quand même la vélocité de dans l'exécution, donc la diminution. Là, tu as joué une pièce volontairement, j'ai l'impression, avec beaucoup de la valeur brève, voilà, sans beaucoup de motifs, mais on va tricoter de la main droite, hein, c'est ça.
C'est ça.
Et aussi intérêt rythmique, il y a des jeux rythmiques aussi, des changements, hein, de motifs rythmiques aussi. Bon, j'ai l'impression que le clavier aussi permet de mettre en valeur ce genre de jeu, de principe musical, de composition.
Et une dernière chose peut-être, c'est que sur ce répertoire, globalement, vous avez deux voix qui sont à distance plutôt d'une quarte, d'une quinte. C'est vrai que sur une bonne partie du répertoire 14e, les mains seraient comme ça. Si vous jouez sur un clavier, c'est juste pas possible. Alors que sur un psalterion, c'est nickel, ça passe, c'est vraiment fait pour. Et c'est vrai que dans le courant du 15e siècle, ces deux voix, les bisignums, ont tendance à être avec des tessitures plus marquées et qui facilitent aussi le jeu pour clavier. On entend bien les... Non. C'est vraiment le même principe que le clavecin.
Ah oui, on perd le clavier, on perd la dynamique.
On peut faire par contre.
Là, on a la dynamique. On gagne des doigts, mais on perd en dynamique, en expressivité.
Mettre une longue robe qui vienne le stabiliser. Donc, effectivement, pour le moment, on a ce ressenti là, mais je serais curieux de l'apprivoiser un peu plus pour chercher ça.
C'est lourd, il est lourd quand même.
Je pense que les plectres ne marchent pas comme ça.
Il n'y a pas assez de poids, il faut un retour.
Non.
Là, il faut qu'il soit plus horizontal.
Ouais.
Mais là, pardon, il le tient comme ça en fait.
L'autre. Mais les anges, ils se volent.
On peut le prendre en plateau, comme un serveur. De...
Ouais.
Mais il le prend comme ça.
Ouais.
On tient une pièce hein, comme ça, mais pas un concert.
Là, pour le coup, l'iconographie, moi, me paraît pas pertinente pour estimer les ambitus, les tessitures. Pour moi, c'est plutôt un travail de... d'appui sur le répertoire. Le répertoire a besoin de ça, donc les instruments devaient répondre à ce besoin-là. Et
c'est typiquement le cas où il faut partir de la musique pour répondre à des questions. Donc là, avec Baptiste, je lui avais demandé de faire une petite statistique des ambitus des pièces, de quoi on a besoin. Et quand on regarde, le Codex Faenza, par exemple, des fois, il y a une quinte entre les deux voix, une octave. Et ça suffit. Donc ça, voilà, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet instrument pour savoir de quoi j'ai besoin, parce que c'est un instrument de musique, donc il nous sert à faire quelque chose. Donc de quoi j'ai besoin, à quoi il faut qu'il réponde. Voilà. Dans le doute, j'ai augmenté. C'était là pour des raisons pédagogiques, on va dire.
Faut que je me muscle un peu le bras gauche, mais sur 20 minutes, ça passe.
C'est la tendinite.
J'ai une question sur plusieurs images que tu as passées, où c'est comme si c'était inversé avec les basses à droite. Et est-ce que c'est un effet du Photoshop?
Souvent ça sur les orgues.
Non, c'est réellement comme ça. Oui. Moi, je pense par rapport à la composition de la sculpture, c'était incohérent de le mettre dans le bon sens. On perturbait la courbe.
Dijon, c'est inversé, mais les noms des notes sont quand même marqués inversés. C'est très étrange.
C'est-à-dire
la basse de l'autre côté.
Parce que moi, je connais un grand organologue qui croit, dur comme fer, que... au début, on ne savait pas et on pouvait avoir les graves à droite. Et moi, je dis, mais non, c'est une gravure qui nous présente. Mais là, donc, il y a en plus donc les gravures, comme chacun sait, aujourd'hui, encore au XXIe siècle, les gens se trompent. On a bien donné les trucs, et puis après, c'est imprimé à l'envers. Donc là, le programme qui est donné au sculpteur, ce n'est pas de représenter pour nous, comme l'a dit Stéphane. Ça doit s'inscrire dans un ensemble, et ça paraît l'explication que ça doit, la courbe elle doit suivre la courbe générale. Ben on l'a mis à gauche, et ben donc la courbe elle est dans ce sens-là, et ça fait... Moi, je ne crois pas qu'on ait hésité longtemps avant de mettre les basses à droite et à gauche.
Sur les Dulcimer, les basses sont à droite.
Et quand même, sur l'orgue de Dijon qui est représenté, on a les noms des notes qui sont... Il est à l'un des notes, et là, il est tout seul au milieu de la page, donc il n'y a pas une question de perspective. C'est très étrange. Les basses sont à droite.
Laura de Castellet, vous avez fait une thèse sur le paysage sonore du 6e au 14e siècle.
Oui, c'est ça. En fait, 6e, 14e, ça veut dire que j'ai étudié tout ce qui est l'époque romane et l'avant et l'après, tout simplement, pour voir d'où vient cette sonorité et vers où tourne. Un 14, ça change beaucoup. Et alors, je n'ai pas analysé ce qui serait la sonorité gothique, disons.
Oui, parce que forcément, du Moyen-Âge, on a l'impression qu'on a quand même beaucoup, beaucoup plus d'images que de sons. Et donc, comment on fait pour savoir ce qu'on entendait à cette époque?
Oui, évidemment, le son est éphémère.
C'est ça.
Une fois on l'a produit, disparaît. Et c'est impossible de reproduire de nouveau.
Moi, j'essaye avec des micros, mais à l'époque, oui. C'était pas facile.
Il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas d'enregistrement, mais quand même, moi, je cherchais, j'ai abordé une méthodologie multidisciplinaire, de l'iconographie surtout, pour connaître les instruments et les entourages, mais aussi l'archéologie, les sources documentales, littéraires, l'ethnomusicologie, les outils. J'ai étudié comment étaient les outils de menuisier à l'époque pour refaire des instruments. Enfin.
Ah oui, c'est-à-dire de reconstituer toutes les sources sonores qu'il pouvait y avoir.
Oui, en fait, disons, le titre de la thèse, les titres de la thèse sont toujours très foutus. Le paysage sonore de la Catalogne médiévale, 6e, 14e, un exercice de restitution des émotions d'après l'archéologie du son.
Donc vous alliez chercher des forgerons pour faire comme les forgerons de l'époque, pour voir ce que ça vous faisait, vous, sensiblement
Par exemple, ouais. Des forgerons où, ici à Saint-Guilhem, il y a maintenant le salon de luthier. Il y a beaucoup de ce luthier avec lesquels j'ai travaillé pendant beaucoup de temps. Et on fait la recherche, eux ont le savoir-faire des outils, des matériaux. Mais moi-même, j'essayais de faire aussi des instruments comme un berger à l'époque. Voilà, avec un canif, un os, et voilà.
Mais c'est quoi l'approche émotionnelle de ces enregistrements? Parce qu'une fois que vous avez fait la reconstitution et l'enregistrement, qu'est-ce que vous sondez d'émotionnel là-dedans?
Émotionnel. Voyons, ma thèse, j'ai fait deux parties très claires. Tout ce qui est le son comme communication et le son comme expression de sentiments. C'est-à-dire communication et musique. Et comme communication, il y a par exemple les cloches, mais aussi les cors, les sonailles, tout cela. Les cloches. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que ça réveille au sein, à l'intérieur d'une personne, les cloches.
Ça n'est pas que de la communication, c'est-à-dire que c'est aussi des sentiments.
C'est une communication communautaire et même locale. Dans mon village, les cloches ne sonnent pas comme ça. Et quand on entend de nouveau le son des cloches, comme c'était dans ce village, oh, c'est ça, quand j'étais enfant, j'entendais ces cloches tous les matins. Il y a des sons qui nous réveillent vraiment, les entraînent.
Et ça se documente comment?
Bon, c'est compliqué. C'est ça, beaucoup, beaucoup de sources.
À part demander à plein de gens de faire leur journal intime en même temps qu'ils l'entendent. Okay.
Par exemple, les cloches. Il y a deux jours, profitant que j'étais en France, je suis pas française, et je suis allée à Fleury, à l'abbaye de Fleury, la Loire, parce qu'il y a une cloche du 8e siècle. Quand je l'ai vue et je pouvais la toucher, j'ai très ému. Vraiment, c'était une émotion. C'est une cloche que je connais bien par étude, mais j'ai pu la voir dans mes mains Et j'ai regardé non seulement la cloche, la photo, très bien, mais les ensembles, le système de subjection, là où il y avait un degas d'usage, à l'intérieur, s'il y avait un degas du bataille qui va d'un côté à l'autre, mais pas en direction contraire. Et alors, comment ça a été penché? C'est-à-dire qu'à partir de la cloche, on peut déduire aussi le clocher. Ils vont et la portée sonore, hein, si c'est un clocher intérieur, extérieur, et si ça arrive à quelle distance, si ça arrive à la paroisse ou seulement à l'intérieur d'un monastère, tout cela se fait grand.
Donc on entend bien, et on le dit y compris avec les luthiers, que les connaissances liées au Moyen-Âge doivent souvent être complétées en quelque sorte par l'imagination, mais au moment de le restituer, c'est le moment aussi où on retient ce qu'on a pu mettre d'imagination dans nos connaissances, et là on flotte un peu parce qu'on ne sait plus très bien ce qu'on va transmettre.
Bon, on essaie de ne pas trop imaginer, évidemment on est toujours dans le terrain de l'hypothèse, mais on essaie de s'y approcher. Mais c'est pareil quand on fait archéogastronomie. La cuisine, on essaie des sauces, mais par exemple, on travaille en gastronomie avec des animaux qui ont été élevés domestiquement, même industriellement. À l'époque, c'était la chance. Il y a des animaux qu'on ne les trouve plus. Maintenant, moi, on m'a commandé de restituer de petites flûtes dans un château. Et il y a l'une des flûtes en os de mouton qui est spécialement grand. Il n'y en a pas. On tue les moutons assez jeunes aujourd'hui. Et j'ai demandé à plusieurs bouchers si vous avez une partie en os de ces dimensions. Oh, mais c'est trop grand ça, je vais le demander. Mais... on travaille avec des matériaux qui ont bien changé.
Est-ce que, effectivement, quand un luthier travaille avec des cordes de boyaux pour avoir le son de l'époque, est-ce que les boyaux des animaux du XXIe siècle sonnent comme... puisque l'alimentation devait être très différente pour les mêmes animaux au XIIIe, XIVe siècle?
Oui, évidemment, un mouton mange absolument différemment. Nous aussi.
Les animaux mangeaient moins, plus bio à l'époque, a priori.
Et aussi, au Moyen-Âge, chaque étamant social mangeait différent. Ce n'était pas la même chose, l'alimentation d'un moine que d'un aristocrate, que d'un paysan, d'un berger. Et son entourage, ses moyens étaient vraiment différents.
Lionel Dieu, vous êtes musicologue et vous passez pour faire de la musicologie par l'observation des sculptures romanes. Donc ça veut dire que vous avez regardé tous les instruments de musique qu'on peut trouver dans ces sculptures.
Au départ, je suis passionné par l'art roman. Et je suis venu à l'art roman par Henri Vincedot.
Oui.
Et puis, comme je suis musicien et que je connais la musique, je remarque qu'il y a des instruments de musique dans l'art roman.
Oui.
Et je commence à m'y intéresser. Alors, pendant 15 ans, j'ai essayé de photographier l'intégralité de ce qu'il y avait. Et puis, pour expliquer les instruments...
L'intégralité, ça veut dire que vous avez été dans toutes les églises romanes de France et...
J'ai tenté.
Ouais.
J'ai tenté. Et je disais à tout le monde que j'avais tout trouvé. Comme ça, chacun voulait me montrer celle que je n'avais pas trouvée. Ça complétait mon corpus. Et j'ai fait donc un relevé comme ça. Je crois que j'en ai trouvé 3500. Et puis, les instruments, pour les comprendre, je m'adressais à des luthiers. Et on a formé un groupe, ça s'appelle APMUTAM, c'est-à-dire l'Association pour l'étude de la musique et des techniques dans l'art médiéval.
D'accord.
Et il y a beaucoup de gens qui sont ici encore, et qui reconstruisaient les instruments avec l'iconographie que je leur donnais. Et après, on les donnait à des musiciens qui nous disait « ça marche pas ton truc ».
D'accord, donc les musiciens sont arrivés en troisième en quelque sorte.
Il faut construire l'instrument. Et après, avec le retour, on corrigeait, on disait « tiens, ça j'en ai pas tenu compte, ce détail dans l'iconographie on n'y avait pas cru, et finalement il le fallait quand même
voilà. ». Ouais. C'était dans quelles années ces premiers travaux d'archéolutherie alors?
Moi je commençais en 92 je crois. C'est là où, parce que je faisais de la recherche sur l'époque baroque, tout ça, j'ai découvert que je pouvais mélanger l'art roman, ce que j'adore, avec la musique, qui était des choses que je savais. Donc là-dedans, j'avais mon créneau pour faire ma place, on va dire. Voilà.
Ok. Et c'est comme ça qu'on a commencé à avoir des connaissances aussi sur la musique qui se produisait en France, autour de l'an 1000, par exemple.
Oui, mais il y avait aussi d'autres gens qui étaient venus, qui avaient fait avant. Hein.
Oui, bien sûr.
Là, tu me prends un peu dépourvu parce que
il y avait déjà de la musicologie médiévale. Oui,
l'historique des disques médiévaux, tout ça. Mais il y a des gens dans les années 70 déjà qui avaient essayé. Mais à partir d'un certain moment.
Mais qui avaient essayé sur des sources écrites, essentiellement. À ce moment-là, c'était
moi, moi, c'était l'iconographie. Mais il y a quand même des gens, Christian Roux en particulier, qui avait fait des vielles, qui avait travaillé à Compostelle. Moi, j'ai apporté ce côté art roman. Et puis, j'ai fait mes deux livres en 2007-2008. Mais chaque fois que je trouvais des choses, je les donnais. J'ai pas attendu d'être publié pour que les gens en profitent.
Et que ça circule.
Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28. Je te l'ai dit, non?
Ah bon? Mais une thèse sur quoi?
Sur rien.
Ah bah c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps, ça.
Mais non, c'est les chevaliers de l'an 1000 du lac des paysans.
Ah non, Odile, c'est pas du tout ça.
C'est pas du tout ça? Bon, bah alors vas-y, c'est quoi?
Les chevaliers paysans de l'an 1000 du lac de Paladru.
Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit ça?
Non.
Au lac de
Paladru.
Il se trouve que vous avez des informations très très précises sur la musique que faisaient ces chevaliers paysans du lac Paladru en l'an 1000.
Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, comme je travaillais sur l'art roman et que j'habite à 10 km de Charavine,
d'accord,
je suis allé au chantier de fouilles et je leur ai dit, vous avez trouvé des instruments, moi, avec ce que je connais sur la musique, je peux les étudier et ça m'intéresse. Et ils m'ont répondu... tu travailles avec nous, tu publies avec nous. Voilà. Et après, j'ai eu...
Donc là, vous étiez embarqué dans le truc.
Ah ouais, et puis alors, c'est formidable parce que l'archéologie, c'est un monde d'échange.
Mais
alors,
ils faisaient quelle musique, ces chevaliers paysans?
Ils faisaient la musique de l'an 1000. Alors, c'est quand même... il faut parler de Paladru, de Charavine, hein, Charavine-Coltière, sur le lac de Paladru. Cette histoire de film, ça je crois que c'est Collardel, le directeur des fouilles, qui a réussi à faire placer ça pour qu'on parle de Paladru aussi. Hein. C'est un truc un peu médiatique.
En tout cas, ça marche.
Il savait faire. Mais c'est un côté drôle.
Mais il jouait de quel instrument?
Alors, on a à Charavine, on a principalement ce qu'on appelle des muses, parce que j'ai trouvé le nom dans les textes qui nous manquaient des muses. C'est-à-dire, c'est un instrument sur lequel on met une hanche simple. Et ça, on est là entre 1006 et 1036. La cornemuse, elle n'arrive que vers 1200. Il faut bien s'imaginer ça, 1150, 1200,
d'accord,
ça n'existe pas avant. Et le nom de la cornemuse au Moyen-Âge, c'est muse au sac. Donc on met un sac à la muse.
C'est ça.
La corne à la musa, c'est plutôt le pavillon.
Donc là, les chevaliers au lac de Paladru, ils jouaient la muse, mais sans la corne, enfin sans le sac, sans le sac.
Donc il faut faire la respiration artificielle pour te... mais quand on est fatigué et qu'on devient vieux, on a envie de mettre une poche derrière parce que c'est moins fatigant. Et je pense que la cornemuse, ça s'est inventé comme ça. On a mis une poche derrière un jour pour éviter de faire la respiration circulaire, justement.
Ouais.
Et alors on a ça, on a des flûtes en os, dont certaines, une flûte à trois trous qui est dans un ulna, c'est-à-dire le bras du vautour, et qui marche très bien. Et on a quand même des trompes en terre, beaucoup. Alors les trompes en terre, c'est pas vraiment un instrument de musique pour le concert, c'est surtout la sirène pour appeler les ordres du boulot et tout ça. Quoi.
Ouais.
Voilà, hein, c'est des repères sonores.
Okay.
Et en fonction qu'elles soient grandes, parce qu'on a différentes tailles, et on a quand même, par contre, dans les textes, par exemple, la très grande, on la joue quand il y a les incendies pour prévenir le château d'à côté. Celle de 38 cm servait certainement pour aller au boulot, pour revenir et tout ça. Et par contre, ce qui est incroyable, c'est qu'on a des chevalets de vielle.
C'est-à-dire
la vielle à roue, la vielle à archer, c'est-à-dire on va dire le violon médiéval. On n'a que les chevalets, on n'a pas les autres parties. Mais si on a le chevalet, c'est qu'il y avait des vielles. Donc ça veut dire qu'on chantait déjà une sorte de poésie lyrique.
Pourquoi j'ai mis un truc de plus ?
Donc ça, c'est toutes vos flûtes, Jeff ?
Non, c'est pas toutes.
Non, c'est un bon paquet.
C'est minimal, là. J'ai jamais pris aussi peu.
C'est vrai. Mais donc là, vous avez mis un filtre, vous avez pris que celles qui étaient médiévales ou...
Voilà, exactement. Le principe, c'est de mettre que celles qui sont dans l'esprit de ce que nous faisons. Le bambou existait au Moyen-Âge, on aurait pu l'apporter. On disait que ça s'appelait la canotte d'Inde. Et en fait, je voulais être minimal, j'ai apporté que le véritable, enfin ce qui ressemble le plus à l'original.
Ouais. Comment on fait une flûte médiévale alors ?
Comme on ferait une flûte d'aujourd'hui, de toute façon.
Il y a des différences, j'ai l'impression. Déjà, il n'y a pas le même nombre alors, de trous partout.
Les différences, elles sont que nous sommes chargés, les luthiers, de faire les instruments pour les musiciens d'aujourd'hui, qui, eux, jouent sur les flûtes classiques d'aujourd'hui, soit les pipeaux à six trous, qu'on appelle vulgairement whistle, whistle irlandais, enfin, c'est le même principe.
Ça veut dire que vous tenez compte de leur technique de jeu.
Mais évidemment, parce que justement, dans ce qu'on a fait comme reproduction cette semaine, tout ce qu'on a fait pratiquement est injouable pour eux. Ils n'ont pas l'habitude de ces doigtés qui sont anciens et qui ne sont pas adaptés aux musiques d'aujourd'hui, mais qui sont parfaitement adaptés aux musiques médiévales. Alors, c'est eux qui nous demandent, qui nous disent c'est ce que nous voulons, c'est ça, voilà, bon, on respecte ce qu'ils veulent. Dans certaines flûtes, il y a plusieurs doigtés. Celui qui a l'habitude d'un doigté classique ou baroque, on va lui faire un doigté comme ça. Celui qui a l'habitude du doigté 6 trous ou 7 trous ou 8 trous, mais avec des nuances différentes du doigté baroque, on le fait à la demande, tout compte fait, voilà.
Ah ouais, donc en fait, alors, vous adaptez l'instrument au doigté de l'instrumentiste, mais dans les gammes qui sont celles de l'époque visée quand même.
Justement, dans les gammes, mais aussi dans les matériaux, dans les... Donc on a quand même les mêmes résonances, ou approximativement. Parce que c'est évident que quand on fait une flûte à bec d'aujourd'hui, avec notre technique d'aujourd'hui, nos visions d'aujourd'hui, c'est pas forcément l'esprit de ce que faisait jadis. Et quand on reproduit les instruments d'ailleurs dont on parle pendant ce colloque, on a d'autres choses, on a d'autres sonorités, on a d'autres timbres.
Ouais. Est-ce que moi qui joue de la flûte à bec telle que je l'ai apprise à l'école ou au conservatoire, je ne peux pas jouer de votre flûte avant d'apprendre d'abord le solfège médiéval pour que ça donne quelque chose de cohérent ?
Non, au contraire, justement. Disons que là, j'ai un modèle qui ressemble à celui dont on a parlé, qui était la flûte de Nisa, polonaise. Sauf que j'ai mis un doigté à 6 trous, mais je peux l'avoir à
7.
À 7, 8 trous, pareil, de la même façon. Je dois en avoir. Il faut tomber dessus dans le lot, mais...
Là, il y en a 7.
Là, il y en a 7, non, pas 8.
Non, il n'y a pas 8. Donc, il manque celui de derrière.
Il y en a mélangé, là, c'est tout mélangé. On va le regarder. Non, on peut les mettre là, si tu en trouves. Bah, tiens, là-dedans. Je vais regarder... Attends, je vais le vider.
Tu peux regarder dedans comme ça, hein ?
C'est un doigté baroque.
Ouais.
Et en fait, il est fait pour aller sur une flûte double, en remplacement d'une flûte à 6 trous.
Voilà, d'accord.
Pour qu'on puisse choisir celui qui va bien. Ça aussi, c'est un bourdon de remplacement. Le sureau.
Ah, c'est le sureau. Ouais, toujours le sureau.
Voilà. Bon, j'ai pris aussi quelques roseaux qui existaient au Moyen-Âge, bien sûr, mais dans le bassin méditerranéen, plus rarement vers le nord, puisque on emportait, c'était les tisserands qui avaient besoin de roseaux à l'époque, et donc les facteurs d'instruments, les luthiers, les musiciens en général, allaient puiser dans ces stocks-là pour prendre de quoi faire des anches, par exemple, surtout, et de temps en temps des flûtes aussi. Donc on sait que ça existait, mais c'était vraiment méditerranéen. On les trouvait dans les foires de Provins, de Troyes, des choses comme ça, des villes comme ça, qui accueillaient et qui montaient ensuite, les gens qui achetaient là, allaient les vendre en Allemagne, en Suède, etc. Le roseau méditerranéen était connu partout. Donc on sait qu'il a voyagé.
Pensé, on s'est dit, ah ben ça, pour si l'embouchure est médiane comme ça, peut-être que ça pourrait être aussi ça, parce que c'est vrai que le musicien, les lèvres, elles sont pas clairement définies. Soit le peintre, il a dessiné comme ça, je caricature pour que manifester une flûte traversière, mais en vérité, si on fait comme ça, c'est il y a quelque chose de plus.
Mais quand même, on voit la fenêtre.
Voilà.
Le cheval.
Jean-Daniel Talma, vous avez organisé un stage de perce naturelle de flûte, c'est ça ?
C'est ça. Pour être encore plus précis, un stage d'archéolutherie consacré aux flûtes dites à perce naturelle. Donc, c'est-à-dire des flûtes qui sont non pas calibrées dans un matériau, mais qui s'adaptent à un matériau naturel. Donc, à des flûtes que moi j'aime appeler aménagées dans des branches d'arbres, dans des roseaux, dans des os ou dans des cornes. Et là, en l'occurrence, pour ce stage dont on parle, le stage du CIM, qui a eu lieu donc là ces derniers jours, on a travaillé spécifiquement sur les branches de sureau et sur l'os.
Donc vous êtes venu avec des branches qui n'étaient pas plus taillées que ça, et vous avez proposé aux stagiaires de les transformer en flûte.
Exactement. Moi, je suis arrivé avec des branches brutes qui avaient été découpées en hiver et séchées, et puis des os de chèvre, pour proposer une restitution de 5 instruments qui sont soit des artefacts, soit des instruments issus d'iconographie. Donc on a réalisé une flûte en os avec plusieurs trous de jeu, assez complexe dans sa forme. Ensuite, on a réalisé une double flûte d'après un manuscrit conservé à la bibliothèque de Lyon. Donc ça, c'était du sureau.
Un manuscrit, c'est-à-dire c'est une enluminure qui vous donne quelques informations sur les flûtes qui devaient être celles de cette époque-là. Et vous allez prendre quoi comme information? Parce que ne serait-ce que l'espacement, alors le nombre de trous, ça on le voit sur l'image, mais leur espacement, leur diamètre, faut inventer?
Alors, en fait, même les trous, on les voit pas forcément sur l'image.
Ils sont recouverts par les doigts.
C'est ça, exactement. Mais effectivement, dans l'image, on essaye de chercher. C'est un peu comme un boulot de détective, c'est-à-dire on essaye de trouver des indices, mais on sera jamais certain que ces indices donnent l'instrument qui a été représenté. Mais voilà, en fait, pour moi, c'est vraiment un champ de créativité. C'est-à-dire que encore plus quand on part d'une image où l'interprétation est beaucoup plus large. Après, voilà, les éléments techniques, on peut avancer des solutions, surtout grâce à l'expérience qu'on a acquis en tant que luthier et en tant que chercheur, c'est-à-dire toutes les connaissances qu'on a accumulées, à la fois dans la lutherie, c'est-à-dire il y a des choses qui ne fonctionnent pas pour certains types d'instruments, ça peut être des proportions, des placements de trous, dont on sait qu'ils vont pas fonctionner de manière optimale. Donc ça nous donne des indices pour aller vers un instrument qui est le but de l'instrument, c'est quand même qu'il sonne et qu'on puisse produire un son. Et on peut prendre on prend en compte plein de choses, c'est-à-dire que moi j'essaye aussi de recontextualiser le panorama sonore de l'époque, ou en tout cas les moyens dont disposent les musiciens à l'époque pour se faire entendre aussi. Donc on va choisir des recettes de lutherie qui vont permettre d'avoir des instruments qui soient le plus optimal et le plus sonore possible. Et puis après, il y a tout le travail aussi, nos musicologies, c'est-à-dire toutes les connaissances de flûte qu'on recherche au début par passion, puis après avec des intérêts bien ciblés. Voilà, il y a toujours des réminiscences dans le temps de pratiques plus anciennes, et ça nous donne aussi des indices. Voilà, on brasse un peu tout ça.
Ce qui était intéressant, c'était la liberté que nous laissait l'enluminure, parce que même en voyant assez précisément, ben, on voit pas le bec, rien ne prouve que c'est des flûtes d'ailleurs,
ça.
À part le texte quand même. Bon. Et on voyait pas les trous non plus, donc on a un peu expérimenté avec la position des doigts, donc en concluant d'abord que le petit doigt était posé au bout du flûtet pour tenir la position. Que l'annulaire paraissait un peu au-dessus, mais parce qu'il servait à tenir, et ensuite les trois trous, donc possiblement positionnés comme ça, pouce, majeur et index. Et ensuite, la difficulté a été de faire deux flûtes
exactement
similaires, alors que déjà on ne savait pas trop faire des flûtes avant il y a une semaine, et on était deux, donc débutants, à se prêter au jeu. Voilà.
Là, c'est un travail d'ajustement du sifflet qui est très fin pour qu'elles fonctionnent bien ensemble. C'est vraiment un travail compliqué quoi, pour un premier stage de flûte pour des archéolutiers novices. C'est un peu une gageure d'y arriver, mais ils se sont très bien débrouillés.
Avec un peu d'aide.
Je voudrais ajouter quelque chose parce qu'on a travaillé sur la flûte du coup avant d'aller sur la flûte qu'on a reconstituée. On a fait un travail de cote sur la flûte de Morpheus. Moi, je sais plus comment il s'appelle. Et en fait, on a en prenant la cote sur la main, puis après en agrandissant, on s'est rendu compte qu'on avait exactement le même rapport qu'ils avaient trouvé eux de leur côté. Donc quand même, on a des enlumineurs qui sont sacrément qualifiés, on va dire.
Le même rapport de proportion.
Oui, le même rapport de proportion, pardon.
Et le ressenti du matériau, ça veut dire de faire sonner la flûte à quasiment toutes les étapes de confection, vous là ?
Ouais, en fait, le tube, on le fait. Enfin, dès que le tube est fait, on commence déjà à le faire sonner, même s'il n'y a pas encore de sifflet. En tout cas, moi, c'est la manière que je pratique.
Et vous allez chercher quel type d'infos sonores à cette étape-là du travail ?
Ben déjà, voir, par exemple, quand on souffle dans un tube, on peut émettre plusieurs harmoniques. Ces harmoniques, c'est des harmoniques naturelles du coup du tube. On peut déjà, en soufflant une première fois dans le tube, juste avec l'arête du tube, constater si les harmoniques sont justes. Et donc, auquel cas, si elles sont justes, ben, c'est super, parce que bon, quand on va percer des trous, ben, on sait qu'on est dans le bon sens, quoi. On va vers quelque chose d'intéressant. Si elles sont déjà pas justes, notamment par exemple si on a un bout de roseau dont on ne maîtrise pas du tout la perce, ben, on sait qu'on va pouvoir rajouter un trou qui va améliorer la justesse de l'harmonique de l'octave, par exemple.
Mais ça veut dire que dans ces moments de test, on est déjà en dialogue avec une espèce d'idéal harmonique dont on peut se demander comment vous savez qu'il est en rapport avec la musique qui se pratiquait à l'époque de ces enlumineux.
Alors là, en fait, on touche au domaine de la musicologie. Du coup, ça, c'est aussi une recherche qu'on mène en parallèle, c'est-à-dire quand on est archéoluthier ou luthier, on a besoin de savoir ce dont les musiciens ont besoin. En fait, c'est des outils d'expression. Et donc, on se penche aussi sur le répertoire de l'époque, en fait, hein, en tout cas ce qu'on en connaît. Et là, ce qui est intéressant de souligner, c'est tout le travail de partenariat avec aussi les musiciens qui sont les premiers destinataires de ces instruments. Et ça, c'est un travail qui est hyper important, à la fois sur l'aspect purement technique de la réactivité d'un instrument, de sa qualité sonore, de sa qualité d'émission, du son, mais aussi sur le répertoire, c'est-à-dire comment c'était joué. Et parfois, ça peut nous donner des indices sur justement un nombre de trous, parce qu'il y a une stylistique de phrasé ou d'ornementation qui a besoin de ce trou-là, en fait. Donc c'est vraiment un travail, c'est un travail de détective au sens, on va dire, actuel du terme, avec on essaye d'être dans un travail de co-création et de connaissance, voilà, de... On...